L'ascension. Donc, nous avons vu l'affirmation de la seigneurie de Christ, sa place, son autorité. Je vous invite à regarder maintenant l'attitude des disciples. Comment ils ont réagi au moment de l'ascension, justement, il y a quelques 1987 ans et quelques. Voilà. Je lis dans Actes, mais je n'ai pas pris tout le texte de Actes 1. Donc, par endroit, il y a quand il, j'ai mis les yeux, hein, et quand il y a des passages enlevés, je les ai pas enlevés. C'est pas qu'ils n'aient pas leur importance, mais par rapport au sujet, j'ai fait un peu le tri entre guillemets. Mais ils ont toute l'importance. Je vous invite à les relire chez vous complètement. Voilà. Après sa mort, Christ se présenta aux disciples vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le vurent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Alors les apôtres quittèrent la colline. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier. Alors, que voyons-nous dans ce texte-là? D'abord des disciples qui sont en attente d'une intervention de Dieu. Ils attendent la promesse que Dieu a faite d'envoyer le Saint-Esprit. Ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit. Ils savent qu'il y aura quelque chose, un consolateur, etc. Et qui leur permettra effectivement d'être au service, d'être apte, d'être capable d'eux. Capable d'une vie transformée qui rayonne et qui impacte le monde autour d'eux. En attente d'une intervention de Dieu. Et comprenons qu'à l'époque, ils ne savent pas que 10 jours après, le lundi sera férié. Alors, il n'est plus férié, mais il a été longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas combien de temps il va falloir attendre. Et nous, ça fait 2000 ans et quelques, ou presque, qu'on dit « Jésus vient bientôt ». Et combien de fois, moi, je dis « Seigneur, ce serait bien que ce soit demain. J'en ai marre. » Mais on ne sait pas. Eux, ils sont dans cette attente sans savoir, eux aussi. Par contre, ils vont avoir une attitude que l'on peut peut-être copier. Dans cette attente où je ne sais pas quand ça arrive, une attitude, je dirais, voilà, où ils ont une disposition de cœur qui leur permet de durer 10 jours, 50 jours, 1000 ans. Voilà. Donc, et nous, est-ce qu'on n'est pas en attente? Et pas forcément l'attente du retour du Christ seulement. On a peut-être envie d'une guérison. On a peut-être envie d'une consolation. On a peut-être envie d'une protection, d'une intervention particulière dans notre vie ou dans la vie d'un autre, d'un proche, de quelqu'un que l'on aime. Comment attendons-nous dans ces cas-là? Est-ce que nous pouvons attendre ou plutôt recevoir de la part des disciples ici un exemple, quelque chose à méditer pour nos vies personnelles. Alors, que voyons-nous également? Ils sont dans cette confiance, ils savent attendre parce qu'ils ont confiance dans le Seigneur. Ils savent attendre parce qu'ils savent en qui ils croient. Ils savent que celui qui leur parle n'est pas quelqu'un qui ment, qui change d'avis, qui hésite. Peut-être qu'il n'a pas notre calendrier, mais il a par contre sa fidélité. Et sa réponse, ils lui font confiance, ce ne sera peut-être pas comme ils le veulent, ce ne sera peut-être pas oui, ce ne sera peut-être pas non, ce sera peut-être attends encore un peu plus. Mais ce sera quelque chose, en tout cas, sur lequel ils peuvent compter. Et c'est une attente active dans la prière. Ils ne sont pas juste là à attendre que ça se passe, et puis on verra bien, ils sont actifs dans la prière. D'un commun accord, ils se réunissaient souvent pour prier. Les disciples, les femmes qui étaient avec Jésus et qui étaient donc les épouses des disciples, et pas que. Le texte nous dit la mère de Jésus était là, Marie était là, etc., etc. Une attente active dans la prière. Donc ça, c'est le comportement des disciples. On a vu l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus, et ils savent lui faire confiance. Mais pourquoi? Quand on parle d'autorité, ça nous fait parfois frémir. Ça révèle quoi en nous? Ça résonne comment chez nous? On ne peut ne pas être dans cette même, je dirais, volonté d'attendre l'accomplissement de quelque chose d'un tyran. On est d'accord ? C'est pourquoi je voudrais faire le pont entre cette seigneurie, cette autorité et la bienveillance qui amène ces gens à cette attitude-là. L'autorité bienveillante qui amène justement les disciples à une attente active et confiante. Alors l'autorité, on va voir trois choses. D'abord, l'autorité seule. On va regarder, comme je disais, quelles sont les résonances pour nous dans nos vies. Parce qu'il est important de comprendre ce qui se cache derrière ce terme-là dans nos vies aujourd'hui. Si on n'est pas au clair sur ça, alors vous allez entendre ce que je vais dire avec vos filtres, avec mes filtres, etc. Or, il est important de voir ce que Dieu entend par l'autorité de Jésus-Christ. Ensuite, on regardera comment dans l'Ancien Testament, autorité et bienveillance se conjuguent, puis dans le Nouveau Testament. Et encore une fois, je ne suis pas exhaustif du tout, ce sont que des exemples, et je vous invite à aller lire les textes eux-mêmes pour approfondir le sujet. Alors, aujourd'hui, comment on aborde ce mot « autorité » ? Eh bien, en fonction de notre rapport aux autorités humaines nous-mêmes, selon comment on a eu des relations avec nos parents, avec nos professeurs, avec toute figure d'autorité aujourd'hui, alors on va comprendre de manière plus ou moins juste ce terme-là. Et l'autorité, comme on la regarde, on s'en méfie souvent. Je parle dans notre contexte franco-français, mais pas uniquement. Il y aura souvent le doute ou la méfiance. On ne sait jamais, on pourrait se faire manipuler. Ou l'orgueil. Il est qui, lui, pour être à ce poste-là et me dire ce que j'ai à faire ? Et les Français n'ont pas l'apanage de ces réactions-là. Si on regarde déjà en Genèse 3, comment réagissent Adam et Ève ? Quand Satan vient pour les tenter, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez de ça, vous mourrez ? Mais non, Dieu vous manipule. Ah ! Et Adam et Ève sont attirés, se sentent interpellés par ça. C'est vrai après tout. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Le doute, l'autorité, c'est ça. Comment je me positionne par rapport à l'autorité ? Est-ce que je lui fais confiance ? Elle est bonne pour moi ? Ou est-ce qu'au contraire, attention ? Et puis il a dit aussi, vous serez comme des dieux. Mais ça, c'est génial. Si je peux être comme des dieux, alors c'est encore mieux. Ça attise l'orgueil. Le péché commence par et le doute et l'orgueil. Et dans toutes nos vies, dans toutes nos situations, à chaque instant, j'ai envie de dire, où on tombe, il y a soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et il faut en avoir conscience. Et donc, quand je parle d'autorité, eh bien, je vais parler de l'État, je vais parler de mon patron, je vais parler de, je sais pas moi, de la police, etc., en regardant ça. Ils vont m'avoir. Attention. Et donc, c'est important de comprendre ça, parce que ce n'est pas ce à quoi Jésus nous invite, par rapport à lui. Et donc, comment on va se voir par rapport à l'autorité ? Eh bien, on va vivre dans la peur, ou dans l'opposition. Et les deux à la fois, tant qu'on y est. Donc, je peux aussi avoir peur de Dieu, et je peux m'opposer à Dieu. Pas lui, c'est qui lui ? Et moi, pendant longtemps, j'ai pris Dieu pour un père fouettard. Parce que j'en avais peur, et que je ne voulais surtout pas un Dieu comme ça. Donc, parce que j'avais une compréhension biaisée de qui est Dieu, de qui est son autorité, de qui est toute sa personne, alors je partais en courant. Bon, maintenant qu'on a dit ça, regardons dans l'Ancien Testament comment justement Dieu n'est pas ça, mais comment il conjugue à la fois autorité et bienveillance. Je prendrai donc d'abord l'exemple dans Genèse 3. Adam et Ève viennent de pécher. Et là, je vais faire une petite parenthèse aussi sur le péché, que ce soit clair également sur ce que c'est. Parce que ce n'est pas essentiellement voler des carambars, tuer des gens, etc. Par essence, ce n'est pas ça. Ce sont des conséquences du péché, qui sont des péchés en soi aussi, mais ce sont des conséquences de quelque chose de bien plus profond. Le péché, c'est d'abord un changement d'autorité, justement. Un changement d'autorité, et je vais le détailler après, qui va nous amener à un amoindrissement de notre bienveillance envers nous-mêmes ou envers l'autre. Changement d'autorité, c'est d'abord le refus que Dieu soit Dieu dans ma vie. je sais mieux que les autres et je sais mieux que Dieu lui-même. Donc je décide pour moi de ce qui est bon. Seulement le problème, c'est que je n'ai pas forcément toujours une vision très claire de ce qui est bon pour moi. Ou du moins, si ce que je crois que c'est bon, ce n'est pas forcément ce que Dieu a en tête pour moi. Donc je vais aussi faire des choix, je vais faire des choix qui vont aussi amoindrir la bienveillance envers moi-même, puisque c'est moi la référence. Et que la référence n'est pas forcément au top. C'est aussi accepter d'autres dieux que Dieu sur ma vie. Et là, quand je parle de se déresponsabiliser, je parle d'attitude permanente. Je ne parle pas de l'enfant qui n'est pas responsable et dont les parents s'occupent. Je ne parle pas d'une personne qui vient de perdre un proche ou qui vit une situation catastrophique et qui a besoin de l'aide des autres pour l'aider à survivre momentanément. Je parle d'attitude permanente de personnes qui comptent sur les autres pour vivre à leur place. C'est-à-dire que les autres vont faire pour moi. Je peux être tranquille parce que les autres décideront. C'est-à-dire, je ne m'engage pas dans ma responsabilité d'homme ou de femme. Ça, c'est accepter d'autres dieux que Dieu sur soi. Donc on est dans la subtilité, là. C'est pas dans les trucs très spectaculaires. C'est juste pour illustrer que des choses très subtiles sont de l'ordre du péché. Donc de la séparation d'avec Dieu. C'est aussi les dépendances. Les dépendances, ça peut être ces belles choses, hein, les écrans, les téléphones. Ça peut être les kilos de chocolat qu'on mange par an. Je plaisante. Mais ça peut y être aussi. En fait, c'est toute source qui m'amène à un soulagement immédiat. Je vis dans la peur, j'ai quelque chose qui ne va pas, alors je vais fuir dans une dépendance qui peut être l'activisme, qui peut être le travail à outrance, qui peut être aussi l'alcool, qui peut être aussi la drogue, les choses connues, visibles, qui sont, comment dire, spectaculaires, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça également. Voilà, les dépendances, ce sont d'autres dieux, des idoles, ce sont d'autres dieux sur moi. C'est que ça également se faire Dieu sur les autres. Encore une fois, un changement d'autorité. L'autorité sur l'autre, c'est Dieu. Mais quand je me fais Dieu sur l'autre, ça pose également problème. Et comme ma bienveillance à moi n'est pas la meilleure, forcément, j'amoindris la bienveillance qui va être sur l'autre. Alors, je donne quelques exemples. C'est toutes les fois où mes choix, mes paroles vont porter atteinte à l'autre. Et encore une fois, ça peut être très subtil, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est par exemple une curiosité déplacée. La vie de l'autre m'intéresse, mais pas pour que je puisse porter son fardeau et l'aider. Ça m'intéresse parce que ça m'intéresse. Ça nourrit ma comment, ça m'excite, quoi. Ah, lui au moins, il a des soucis, pas moi. Non, ben c'est ça, ça peut être malsain, quoi. Une curiosité déplacée, si elle n'est pas dans le but de comment, s'il n'y a rien qui n'est dans le but d'aller servir, d'aller bénir l'autre, alors on n'est pas à notre place. Le désir de contrôler l'autre, d'avoir une certaine influence. Je te tiens. J'ai une façon, j'ai un pouvoir de chantage sur toi ou de comment de je te tiens financièrement, je te tiens parce que je sais quelque chose sur toi. J'ai eu cette curiosité déplacée qui m'amène à avoir un certain moyen de pression morale sur toi. Je sais que tu es dans telle difficulté. Alors tu vas me devoir quelque chose si tu ne veux pas que je cafte à tout le monde. J'exagère un peu le tableau, mais pas forcément trop, malheureusement. Un autre exemple qui est donné dans les proverbes, ne révèle pas le secret d'un autre. Je prends que la moitié du proverbe. Mais pourquoi la Bible dit ça? Parce que quand quelqu'un me confie quelque chose de douloureux, ou qui n'est pas à savoir à tout le monde, en tout cas, qui n'est pas à connaître de tout le monde, si je le confie à d'autres, je révèle quelque chose, je mets en lumière quelque chose d'une personne qui souffre et je la mets en public, je la livre en public. Ce n'est pas de la bienveillance. Ce n'est pas de la bienveillance. Et vous pourrez relire toute la loi, relire tous les proverbes, tout est pensé bienveillance, tout est pensé dans le sens, si ce que tu dis, ce que tu fais a un engagement quelque part qui va pénaliser l'autre ou qui va te nuire ou qui va déshonorer Dieu, alors abstiens-toi. Se faire Dieu sur l'autre. Enfin, se faire Dieu sur Dieu lui-même. Si Dieu existait, pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Si Dieu existait, il devrait faire. Ça, c'est dire à Dieu ce qu'il a à faire. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu quand ils disent ça. Mais n'empêche qu'il se place au-dessus de Dieu. Il lui dicte ce qu'il a à faire. Donc le péché, c'est ça. C'est de manière très, comment dire, résumée, mais c'est ça, c'est une question de positionnement. Donc Adam et Ève viennent de pécher. Conséquence, ils ont une estime d'eux qui est dégradée. Ils vont rentrer dans des difficultés relationnelles, et nous avons des difficultés relationnelles. On n'a pas fait mieux qu'eux, on se frite, on a du mal avec nous-mêmes, on a du mal avec l'autre, et c'est la vie, c'est tout, il faut le regarder comme c'est. Et ils ont peur de Dieu, et ils se cachent de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça? Eh bien, Dieu va les chercher. Il aurait pu dire, et j'en ai marre, vous aviez quelque chose de beau, vous avez désobéi, je balaye tout. Et non, Dieu va les chercher. Dieu prend les devants, il prend l'initiative, et il les questionne. Et pourquoi les questionne-t-il? Parce qu'il les aide à verbaliser. Il les aide à dire leur histoire, à dire, ben voilà, ouais, on a fait ça. À ne pas rester caché. Parce que ne pas rester caché, ça libère. Tant qu'on reste dans le secret, entre guillemets, de notre culpabilité, on se consume. D'ailleurs, c'est ce que dit David dans un de ses psaumes. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ne plus se cacher, ça libère. Donc il les aide justement à se dire. Mais il condamne pour autant le péché. Il ne tolère pas le mal, il s'oppose au mal et il reste souverain. Il affirme son autorité. Et en même temps qu'il fait ça, il annonce déjà Jésus-Christ. Dans Genèse 3,15, il annonce déjà Christ sauveur. Et là, on voit cette bienveillance tout de suite qui va s'associer à l'autorité. Ce n'est pas dissocié. Et il va même aller jusqu'à sacrifier une partie de sa création pour soigner le summum de sa création qui est l'être humain. Il va leur donner des vêtements en peau d'animal. Il sacrifie une partie de sa création pour l'homme. C'est l'homme qui a péché, mais c'est l'animal qui va payer à sa place. C'est déjà une préfiguration de l'agneau de Dieu. Je prends un deuxième exemple, dans Genèse 4 cette fois-ci. Là, on a Caïn. Caïn est jaloux de son frère et il est irrité. Et il va régler ses comptes dans la cour de récréation. Ah ! Et qu'est-ce que fait Dieu ? Pareil, Dieu va au-devant de lui. Et il le questionne. Il lui donne encore la possibilité de changer. Il l'aide là aussi à verbaliser, à l'aider à raconter son histoire, à dire pourquoi il est irrité. Et c'est dans la parole qu'on peut effectivement rentrer dans un processus de guérison, par la parole. Il l'encourage à changer de façon de penser. Il lui dit, si tu te détournes, tu peux encore relever la tête. Il l'invite à ne pas rentrer dans la violence. Il lui montre le chemin de la vie. Mais la réponse de Caïn, c'est le silence. Il n'y a pas de parole de sa part. Il s'enferme dans le silence et il finit par tuer son frère. Dans nos versions, quand vous lirez Genèse 4, vous voyez, et Caïn dit, et souvent, allons au champ, ta 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 ta, et il tue son frère. Mais dans le texte hébreu, il y a, et Caïn dit, et il n'y a rien. Mais parce que ça gênait les traducteurs, à un moment donné, et que la tradition veut que ça se passe dans les champs, ils ont rajouté. Mais dans le texte hébreu, original, il n'y a rien. Enfin, original, on n'a plus les originaux, mais dans les copies. Et c'est quand il n'y a plus de verbalisation, de parole, qu'il y a passage à l'acte. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a dit rien. Caïn tue son frère. Dans ce cas-là aussi, Dieu condamne le péché. Il s'oppose toujours au mal et il affirme son autorité. Et en même temps, il va mettre un signe sur Caïn pour que Caïn ne soit pas tué. Il aurait pu dire, maintenant, t'es maudit et c'est zigouillé, hop, on ne compte plus sur toi. Mais il prend soin encore de Caïn malgré ce qu'il vient de faire. Autorité et bienveillance. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Quelques exemples. Regardons quelques exemples dans le Nouveau Testament aussi. Comment parle Jésus de lui-même? Il dit qu'il est le Fils de l'homme. Alors, Fils de l'homme, on pourrait dire, ça parle de son humanité. C'est une expression qu'il emploie pour montrer son humilité. Mais le Fils de l'homme renvoie à Daniel, à une prophétie de Daniel, donc Daniel 7, 13 et 14, où Daniel voit un homme, un fils de l'homme, qui a autorité sur toutes les nations. Sa domination, son règne n'aura pas de fin. En fait, il parle de Jésus qui va régner éternellement sur toutes les nations. Donc quand Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, il dit en fait qu'il est Seigneur. Certes, il est humain, certes, il est humble, mais en même temps, il dit « C'est moi le Seigneur qui vous parle ». Il parle de sa royauté éternelle. Autorité. Qu'est-ce que nous dit également Philippiens 2, et qui vient compléter ou confirmer ce que disait aussi Éphésiens 1 qu'on a vu tout à l'heure. « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. » Jusque sous la terre, les fourmis pareil, les termites pareil. Toute la création. Et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Nous l'avons chanté, et c'est tant mieux qu'on le chante en y croyant, mais comme je disais tout à l'heure, même ceux qui n'y croient pas diront un jour « Jésus-Christ est Seigneur ». Et ça, c'est terrible d'y penser, ça. Jésus-Christ est Seigneur. Autorité. Et regardez également l'ordre des mots dans les épîtres. Quand les Pierre, Jacques, Jean, etc., etc., parlent de Jésus, ils disent « Seigneur et Sauveur ». Les mots sont dans cet ordre-là. On ne dit pas « Sauveur et Seigneur ». Il dit toujours « Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur ». Ce n'est pas par hasard, parce que la Seigneurie passe d'abord. Passe d'abord. Mais la bienveillance, quel usage fait Jésus de cette autorité? Est-ce qu'il s'en sert pour nous écrabouiller ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il libère des démoniaques. Il a autorité sur les anges, il a autorité sur les démons, qui sont des anges déchus, pour les virer, pour libérer les gens, pour libérer sa création de cela. Il guérit les malades, il a autorité sur le corps, il a autorité sur la maladie. Il redonne la vue aux aveugles, il redonne de la dignité aux exclus. Il pardonne les péchés. Ce poids de la culpabilité qui m'écrase, qui me ronge, il dit, ben non, je l'ai pris, je te pardonne. Est-ce que ça, c'est pas de la bienveillance? Et par-dessus tout, au-dessus de tout ça, il choisit même de sa propre autorité de donner sa vie pour nous sauver. Ça va encore au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Il se sacrifie pour nous sauver. Ça, c'est bien la bienveillance. On voit à la fois l'autorité, une autorité au service, une autorité bienveillante pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on foule tout ça aux pieds? Est-ce que ça me passe? Puis, c'est une belle histoire, ouais. Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas quelque chose qui m'attire à Jésus? Est-ce que je laisse ça de côté? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas un appel? Est-ce qu'il n'y a pas un appel? Alors, regardons ce qu'on en fait. D'abord, se rappeler qui est Jésus. Et durant cette semaine, cet après-midi, etc., dans le mois qui vient, rappelez-vous qui est Jésus. Ce Seigneur qui est bienveillant. Ce Seigneur qui a autorité sur toute chose, sur toute personne, sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand on dit « Seigneur », quand le Seigneur il faisait ça, c'était OK, mais quand le Seigneur il faisait ça, ça ne se passait pas super bien. Ce terme de « Seigneur », à l'époque où c'est écrit, c'est « J'ai le droit de vie ou de mort sur vous ». Il est Seigneur, mais un Seigneur qui dit ça. Moi, le commandement que je vous donne, c'est la vie. Le commandement que je vous donne, c'est « Revenez à moi pour être sauvé, pour avoir une éternité meilleure. C'est dans votre état de souffrance, revenez à moi. » Vous êtes dans une attente, revenez à moi. Me reconnaître nécessiteux, parce que tant que je n'ai pas de problème, ben je n'ai pas de problème, et je n'ai pas de besoin, et j'ai besoin de personne. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il faut se reconnaître nécessiteux. Pour ensuite revenir à ma place, qui est celle qui se trouve au pied du Seigneur. Et non pas au-dessus du Seigneur, ou au-dessus des autres. Revenir à ma place. Qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples? Là, je suis dans Luc. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. Et c'est notre vocation, ce n'est pas le bon terme, mais notre première mission, c'est de reconnaître que ouais, nous faisons partie de ces pécheurs, de ces malades, de ces nécessiteux qui ont besoin de Jésus et de sa bienveillance. Et chose extraordinaire, c'est Thomas. Thomas, donc dans Jean 20, je crois, Thomas, il ne croit pas à la résurrection. Il veut voir Jésus en vrai. Et puis il veut voir les trous, il veut voir les plaies. Et Jésus lui dit, mais viens voir, viens, regarde, touche. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit les plaies, c'est quoi? C'est Jésus sauveur. C'est Jésus sauveur, j'ai payé pour toi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il ne dit pas mon sauveur et mon Dieu, il dit mon Seigneur et mon Dieu. Quand il voit cette bienveillance de Dieu, la seule chose qu'il dit, ben ouais, je me replace à tes pieds. T'es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Ça c'est intéressant de méditer ça. Alors, si quelqu'un n'appartient pas à Christ aujourd'hui, se pose des questions, ou ne s'est jamais posé de questions, mais il entend juste simplement ce que je raconte, posez-vous la question. Est-ce que je ne suis pas nécessiteux? Qui est ce bonhomme-là? Est-ce qu'il est juste quelqu'un dont on parle? Ça se trouve, ce n'est même pas prouvé, on ne l'a jamais rencontré, alors que d'autres l'ont rencontré. En fait, est-ce qu'il n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux? Et quelqu'un qui vaut le coup, non pas qui m'écrase, mais qui tient tellement à moi qu'il m'a sauvé. Tellement à moi qu'il peut changer ma vie. Et puis si nous attendons une intervention particulière de Dieu dans nos vies, parce qu'on vit un deuil, parce qu'on vit une maladie, parce qu'on est en danger de mort et que l'on a besoin d'un secours bien réel, parce qu'on n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation de péché ou de dépendance, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, eh bien, pareil, me rappeler qui est ce Jésus, cette main tendue, cette autorité qui me dit « mais je suis là, je peux, et ce qui m'intéresse, c'est ton changement, ta transformation, ton mieux-être. D'abord ta vie, mais aussi un vrai mieux-être. » Ce n'est pas de la psychothérapie, la psychothérapie pourrait en faire partie, mais c'est bien au-delà de tout ça. C'est une restauration complète de la personne dans son état physique, s'il est possible, et Dieu le peut, mais il ne le fait pas tout le temps, dans son état psychologique, le plus possible, et dans son état d'abord spirituel. Avoir confiance en Jésus, comme les apôtres, ils étaient prêts à attendre 10 jours, et peut-être plus, parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Ils savaient qui était ce Jésus, cette autorité bienveillante. Donc ils pouvaient attendre, mais attendre activement, pas en laissant faire les autres. Ça, c'est accepter des dieux sur nous. Activement dans la prière. Et activement dans la prière, ça peut être seul, ça peut être les un à un, les vis-à-vis, je ne sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, le fait d'être avec un frère, une sœur, avec qui je peux me dire, avec quelqu'un de confiance, à qui je peux prier, à qui je peux pleurer, et dire, ben là, je souffre, est-ce qu'on peut prier ensemble? Ça peut être dans les PPP, les petits groupes de maison, ça peut être aussi dans la boucle de prière, bien sûr, et merci pour ce service que les uns et les autres rendent. Ça peut être plus collectivement, mais une attente active dans la prière, parce que dans la prière, Jésus me transforme, Jésus me prépare à recevoir sa réponse demain ou dans 1000 ans aussi. Et cette réponse, ça peut être dans l'éternité, ça ira mieux. En attendant, mon plan est que ma grâce te suffit, comme je disais à Paul. La prière n'est pas la garantie de la réponse que je veux, mais c'est un espace où Dieu me transforme pour attendre sa réponse. Ensuite, se faire aider quand c'est nécessaire. Il ne faut pas hésiter. La foi ne remplace pas les spécialistes et n'exclut pas les spécialistes. Quelqu'un qui a un vrai problème de souffrance, de dépendance, de souffrance psychologique, qui a eu une enfance où il faut retourner chercher le petit garçon qui a été violé ou qui a été battu, etc. etc. Prie et ça ira mieux, c'est pas de la bienveillance. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Dans des cas comme ça, il faut des spécialistes également. Et prions pour trouver le bon spécialiste et que le spécialiste ait les bonnes paroles, la bonne attention, le bon rythme, etc. Quand on a la grippe, on va chez le médecin. On peut prier. Guéris-moi, Seigneur. Et puis, souvent, il ne guérira pas le Seigneur. Parce qu'il dit, faut pas me tenter. J'ai mis dans votre contexte culturel, ici, des médecins, des gens qui savent aller dépendre d'eux, entre guillemets, dans le sens dépendre. Pas dépendre un Dieu sur moi. Mais je fais de vous des gens qui êtes en interaction. J'ai mis des spécialistes, va le voir. Et prions pour trouver le bon médecin, que le médicament soit efficace, ça oui. Mais n'inversons pas, ne changeons pas les rôles. Laissons chaque personne à sa place. Donc, surtout, et ça j'insiste là-dessus, parce qu'on peut entendre des messages, tu pries, ça ira mieux, c'est faux. Prier, ça aide, c'est nécessaire, c'est passer en premier, mais il ne faut pas oublier le reste. Après, il ne faut pas aller voir un psy forcément tous les jours, mais c'est parfois une très bonne chose. Il ne faut pas hésiter. Ensuite, écouter le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque du texte, il n'y a pas la Pentecôte, mais maintenant, il y a déjà eu la Pentecôte. Parce que les 10 jours sont passés, évidemment. Donc le Saint-Esprit, nous, on l'a. Et pour la transformation, c'est le Saint-Esprit qui va aussi et d'abord nous transformer. Parce que quand je prie, le Saint-Esprit m'aide à prier, puisque la Bible dit que je ne sais pas prier. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, le Saint-Esprit m'aide à prier. Et le Saint-Esprit me convaincra et fera également une partie de ce job-là. Pas que, mais il aidera aussi. Voilà, ça c'est le programme. Donc dans tout cela, je vous ai noyé. Retenez Jésus, l'autorité bienveillante, pour casser, briser ce cercle-là, briser cette ligne-là, et revenir à lui. C'est tout ce que je puisse, je dirais, souhaiter de mieux pour vous. Les choses ne seront pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage. On est toujours en apprentissage sur Terre, jusqu'à la fin de nos vies. Mais c'est un beau programme. Je vous invite à prier. Notre Seigneur, beaucoup de choses ont été dites, mais si on veut se rappeler, c'est que toi, tu es l'autorité bienveillante. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il n'y en a pas d'autre. Tout a été soumis à tes pieds et nous sommes sous ton autorité. Et nous voulons nous replacer encore, s'il est nécessaire, sous ton autorité. Ne pas lutter contre toi, mais reconnaître que tu es celui qui peut tout, à qui nous devons tout. C'est toi qui nous donnes la vie. Si on respire encore ce matin, maintenant, c'est parce que tout subsiste en toi et que c'est toi qui nous donnes le souffle. Et on te dit merci pour ça. Merci parce que ton autorité, tu la veux bienveillante. Tu la veux au service du bien. Et nous qui avons tout cassé, tout brisé, tout ton plan parfait dans la création, tu nous veux encore du bien. Au point d'avoir donné Jésus pour qu'on soit transformé, changé, sauvé. Et dans nos vies, qui sont qu'une vie d'apprentissage, de restauration progressive, tu veux nous accompagner aussi, toujours en nous rappelant que tu es cette personne qui tend la main, qui est capable et qui a des projets qui sont bons pour nous. Cette définition du bon n'est pas forcément la même que celle que nous avons. On ne la comprend pas toujours, ta réponse. Des fois, on ne la souhaite même pas. Pas celle-là, en tout cas. Mais nous voulons reconnaître que, de toute manière, l'autorité, c'est toi, le souverain, c'est toi. Et que ta motivation pour nous est bonne. On veut apprendre à la découvrir, cette bienveillance. Alors merci, bénis chacun ici. Que ton règne vienne un peu plus profondément dans le cœur de tout le monde ici. Que l'on soit encouragé, que l'on soit restauré, renouvelé. Et que nos vies soient transformées pour te rendre un peu plus gloire, s'il est possible, Seigneur. Amen.